Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Charles-Juliette Lambeau. À l'approche des 5 heures, surpris que le temps ait si vite passé, il t'a quitté précipitamment. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de lui demander de le revoir et tu es furieuse contre toi. Tout en marchant, tu te répètes ce qu'il t'a appris. Il habite Paris, est étudiant, a passé la semaine dernière les épreuves écrites d'un difficile concours. Il est venu en vacances chez sa tante, à H, où, tout en se reposant, il préparera les épreuves orales. Pendant les jours qui suivent, tu ne cesses de penser à lui, ne peux te défaire d'une lourde tristesse. Cherche en vain à imaginer le moyen qui te permettrait de le retrouver. Mais l'émotion qui te saisit au rappel de cette rencontre, tu l'emploies à l'étouffer, consciente qu'un tel jeune homme se refusera à fréquenter une fille aussi quelconque que toi. Lui, un étudiant, qui plus est parisien, promis à un brillant avenir, et toi, une paysanne ignare, tout juste bonne à soigner des cochons, ne connaissant rien en dehors de son village et affublée d'un père que jamais tu n'oserais lui présenter. Ce serait folie d'imaginer que ne serait-ce qu'une amitié pourrait naître entre vous. Le dimanche suivant, tu retournes au fond de la Combla, où un heureux destin t'a fait le rencontrer. Tu n'as pas un regard pour le boulot dans lequel tu avais cru pouvoir te reconnaître et dont tu avais caressé le tronc. Tendue, anxieuse, tu scrutes avidement cette pénombre où tu brûles de le voir apparaître. Enfin, il est là, souriant, apparemment heureux de te revoir. Toi, tu es si bouleversé que tu ne peux articuler un mot et tu lui tends une main molle. Il te raconte sa semaine, sa découverte de H, la vie qu'il mène chez sa tante et toi, tu t'enhardis à lui poser quelques questions anodines, soucieuses de ne pas lui paraître indiscrète. Quand vient le moment de vous quitter, c'est lui qui te propose de vous revoir. Tu voulais garder secrète cette rencontre. Mais comment la plus grande de tes sœurs aurait-elle pu ne pas voir que tu es transformée? Tu chantes, ris, plaisante, travailles avec entrain et elle a même très vite deviner ce qui t'arrivait. Ainsi es-tu amoureuse, et elle n'a eu de cesse d'obtenir que tu lui racontes tout par le menu. Heureuse d'avoir reçu tes confidences, elle est devenue ta complice, et elle fait en sorte que chaque dimanche après-midi, tu sois sûre de pouvoir t'enfuir. Mais malheur à toi, si le père découvrait quelque chose. Dès que tu t'engages sur le chemin, tu te retiens de ne pas courir. Quant à lui, au lieu de laisser son vélo à l'embranchement, il descend à toute allure et lorsque tu arrives, il est déjà là, à t'attendre. Cette joie folle qui déferle en toi à l'instant où tu vois son visage s'éclairer. Vous vous installez sur le tronc et, sagement, vous bavardez, ou plutôt, il parle et tu l'écoutes. Tu es émerveillé par tout ce qu'il sait. Mais il n'en dit jamais assez, et tu le presses de questions. Tu aimes l'entendre évoquer sa famille, ses lectures, ses amis, ses études, ses professeurs, cette merveilleuse ville de Paris. Les instants les plus beaux sont ceux où il récite un poème. Mais justement, il ne récite pas. Les mots lui viennent lentement, mais pas trop. Et tu as l'impression qu'il les cherche en lui. Alors ces mots qu'il te donne, ils descendent en toi et ils te ravinent. Tu aimes sa voix, ses yeux, ses lèvres, son cou, ses cheveux, ses mains. Mais jamais il ne te plaît autant que lorsqu'il a ce regard pensif et qu'il fronce les sourcils. Dès que tu le quittes, ta joie tombe. Si dur à vivre, si lente à s'écouler chaque heure de chaque jour de la semaine. Et cette angoisse jusqu'au moment de partir le dimanche, à redouter que le père ne rende impossible ton échappée. Mais tu te prépares à ce mauvais coup et te promets, s'il devait advenir, de trouver le courage de braver le père et de passer outre. Ce que tu vis est trop important pour que tu acceptes de le laisser mettre en péril. Cet amour, qui n'a cessé de croître depuis votre première rencontre, il t'érode, te dénude, te ramène constamment à ce qu'il y a en toi de plus pauvre, de plus démuni. Souvent la nuit, quand il te tient éveillé, sa violence t'effraie et tu t'étonnes qu'ait pu prendre racine en toi un sentiment si extrême, si démesuré. Pour aimer, il faut avoir beaucoup à offrir et tu ne sais que trop que tu es dépourvu de toute véritable richesse. Une fille comme toi, simple, ignorante et sans avenir, elle n'a rien à faire valoir. Certes, quoi qu'il arrive, tu seras une femme donnée. Mais cette noblesse, cette grandeur qui sont la marque de l'amour, combien tu en es loin. Les questions que tu poses, elles te concernent. Tu te demandes ce que tu vaux et si tu seras en mesure de répondre à cette exigence qui déjà t'aiguillonne. Une exigence si haute qu'elle semble outrepasser les limites de l'humain. Aimer, oui, mais aimer sans contrôle, sans mesure, dans un don de soi éperdu. Tu passes par des alternances de joie et d'abattement. L'inespéré qui a soudain fait irruption et déchiré le gris de ton existence. Et la pensée que tu lui es par trop inférieur, qu'il y a trop d'obstacles, qu'il te faudrait mettre fin à ces rencontres avant même qu'il t'assène un jour qu'il ne peut y avoir de suite, que tout doit s'achever là. Plus tu attendras, plus amère sera la déception. Tu n'as d'ailleurs que trop rêvé. Il ne t'a serré contre lui qu'une seule fois et jamais ses lèvres ne se sont emparées des tiennes. Ce dimanche-là, quand tu le rejoins, le tonnerre gronde et il règne une lumière de crépuscule, mais tu aimes cette pénombre qui rend les lieux plus discrets, incite à baisser la voix, vous fait désirer d'être plus intime. Tu as apporté le cahier sur lequel tu transcris de temps à autre ces paroles qui se murmurent en toi, mais tu ne sais encore si tu oseras le lui montrer. Tu le tiens caché dans un petit sac et tu ne l'en tireras que si l'occasion s'y prête. La peur qu'il se moque de toi, relève des fautes d'orthographe, bute sur des phrases mal construites. Il ne te connaît guère et tu voudrais qu'il lise quelques pages, découvre un peu qui tu es. À deux ou trois reprises, tu t'étais enhardi jusqu'à lui poser des questions. Celle-ci l'avait surpris et laissé songeur. Tu désires maintenant qu'il t'aide à être moins tourmenté. Il a lu tant de livres, connaît tant de choses, il possède forcément des réponses. Le vent se déchaîne, mugit, hurle, des branches craquent et se brisent, et après un coup de tonnerre plus violent, les nuages crèvent et la pluie tombe avec fracas. Il est anxieux, voudrait rentrer, mais tu le rassures. Il est impossible de trouver un refuge et de toute manière vous êtes déjà trempé jusqu'aux os. Mieux vaut attendre que l'orage finisse. » Soudain, il quitte ses chaussures, ôte sa chemise et, allant et venant sur le chemin, des mèches de cheveux lui barrant le visage, il se met à chanter à tue-tête. Mais bientôt il frissonne, est secoué de tremblement et tu dois accepter qu'il s'en aille. Avant de disparaître, il se retourne, s'efforce de sourire et, les bras à l'horizontale, il tire-bouchonne sa chemise en faisant mine de l'essorer. Toi, debout au milieu du chemin, tu le regardes partir et tu es gêné de ce que ta robe plaquée sur ta peau par la pluie moule trop précisément tes formes. Quand tu franchis le petit pont en arrivant au village, tu jettes ton cahier dans la rivière, qui a pris une couleur terreuse. Ce jour-là, tu l'attends en vain, jusqu'à la nuit. Toute la semaine, tu es rongé d'inquiétude. Le dimanche suivant, grelottante et désespérée, tu te morfonds sous la pluie et passes 16 heures à envisager toutes sortes d'hypothèses. Tu l'as déçu ? Il n'a pas eu le courage de t'avouer qu'il veut rompre. Il n'a pas encore eu le temps d'écrire, mais tu vas bientôt recevoir une lettre. Il l'a envoyée, mais le père l'a interceptée. Sa tante est malade et il la soigne. Ses parents l'ont rappelé et il est parti sur le champ. Il a appris qu'il avait échoué. À cause de cet échec, il traverse une période de cafard et ne veut voir personne. Tu attends. Tu attends. À une ou deux reprises, il avait parlé de la Fresnaye, la maison de sa tante. Tu demandes à l'une des femmes qui travaille à H si par hasard elle connaît cette villa. Ta stupeur. Quand elle répond qu'il ne s'agit pas d'une villa, mais d'un sanatorium.
Dans ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière, nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufier Madelon dans les bras de Marlène. Une fois l'an, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière, et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à 2 sous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie. On faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. Dans ce monde truqué de quelle drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradaient à l'arrière, nous n'avions que 10 ans et dans nos gibecières une histoire de France qui tombait en poussière. On nous a fait courir, traverser des rivières, sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers. Ça tirait par devant, ça poussait par derrière, les plus pressés n'étaient pas les moins militaires. On nous a fait chanter pour un ordre nouveau, d'étranges marseillaises de petite vertu, qui usaient de la France comme d'un rince cul, et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos. Et je me souviens, la petite juive, on lui a dit, viens, elle était jolie. Elle a fait sa valise, un baiser de la main. Elle s'appelait Lise, il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, où le Japon blessait les champs encore son cancer, dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi ne savent plus si Dieu est devant ou derrière, dans ce monde d'argent où la banque surnage comme un poisson ventre qui attend le naufrage, Nous n'avons que 30 ans, sainte horreur de la guerre. Et pourtant nous n'avons pas cessé de la faire. On nous a fait marner de Djebel en rivière, de Caribe dans Scylla, de cuvette en civière, comme si nous n'avions pas autre chose à faire qu'à montrer nos fesses aux quatre coins de la terre. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie. On faisait des bêtises, où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise, et je m'en souviens.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles-Juliette Lambeau. Un jour, tu t'échappes, te rends à H et, plus morte que vive, te présente au secrétariat de cet établissement. L'infirmière-chef te reçoit mais refuse de te dire quoi que ce soit. Tu expliques, insistes, cites des propos montrant que tu te connais bien ce garçon. Émue par ce qu'elle lit sur ton visage, elle consent à t'apprendre que ce jeune homme, effectivement, était l'un de leurs pensionnaires. Oui, il avait une tante. Et en chaque fin de semaine, il allait passer 2 jours chez elle. Il y a quelque temps, il a fait preuve d'imprudence. Alors qu'un orage menaçait, il est allé se promener en forêt. Il a pris froid et a commis une autre imprudence. Au retour, au lieu de rentrer au sanatorium, il est resté chez sa tante. Une double pneumonie s'est déclarée et sa tante n'a pas réagi assez vite. Il y a 5 jours, la phtisie galopante l'a emporté. Tout le personnel est encore bouleversé. Les 10 kilomètres qui séparent H de ton village, tu les as parcourus en somnambule. Lorsque tu as longé le tronc sur lequel vous restiez des heures, épaule contre épaule, de ton bras replié, tu t'es caché le visage, comme pour te protéger d'un feu, d'une menace, pour ne pas voir le gouffre qui allait t'engloutir. Le soir, quand vous vous retrouvez autour de la table pour le repas, ta grande sœur comprend tout. Elle ne sait pas la mort, mais elle comprend que tout est fini. Muré dans ton mutisme, le père lui-même a senti que quelque chose de grave s'était passé et il évite d'avoir à te parler. Le matin, lorsqu'il lui faut t'indiquer ce que tu auras à faire, il s'adresse à la mère ou aux filles. Rolande, la plus grande de tes sœurs, est toujours à l'affût et avec beaucoup de tact, de son regard attentif, elle t'enveloppe de sa paisible tendresse. Les interminables pluies d'automne, les nuages accrochés au flanc des montagnes, ou bien ces jours d'épais brouillard et la lumière qui semble à jamais morte. Le froid humide dans les chambres, et l'hiver qui approche, la neige à déblayer, les mains crevassées par les engelures, l'ennui des mornes soirées et aucun espoir. Aucun espoir. Au cours de la journée, de toute ta volonté tendue, tu te concentres sur ce à quoi s'occupent tes mains. Ne pensez à rien. Arrêtez ce qui sans fin tourne dans ta tête. Simplement survivre. Encore une heure, encore un jour. La nuit, le sommeil se refuse. Ce profond silence de la maison, le froid sur ton visage. Lèvres scellées, yeux ouverts, à attendre que vienne le sommeil, des heures de calme, d'épouvante. Puis, ce dimanche de ciel clair. Cette lumière pâle, veloutée, et tous ces ocres, ces bruns, ces rouges, ces oranges et ces mauves épandus sur les arbres, mais la mélancolique beauté de cette campagne ajoute à ta souffrance. tu te rends là où vous vous retrouviez, il ne verra pas l'incomparable splendeur de cet automne. Le boulot est là, mais tu es trop loin de celle que tu étais pour jouer à retrouver en lui ton image. Dès demain, tu agrippes son tronc et te mets à hurler longuement. Des hurlements sauvages, inhumains, de plus en plus rauques, qui vont s'exténuant, puis s'achèvent sur un râle qui s'étouffe dans ta gorge déchirée. Chaque matin, alors qu'il fait grande nuit, tu dois affronter la pénible séance du lever, t'arracher à la tiédeur des draps, subir l'agression du froid, enfiler des vêtements glacés, rester assise sans pouvoir vaincre ton inertie, entamer une journée dont tu ne sais si tu atteindras le soir et, au long des heures, puiser dans ta volonté le courage de tenir alors que tu n'as plus aucune énergie, que tu aspires seulement à t'éteindre, te reposer, à dormir, sans jamais avoir à te réveiller. Dans la famille, nul n'a reçu la moindre confidence. Mais chacun, à sa manière, respecte ta douleur. Le père ne te parle plus. La mère est quasiment muette et ne communique avec toi que par des regards. Quant aux sœurs, elles ne plaisantent plus en ta présence. Et lorsqu'elles s'adressent à toi, c'est avec retenue, gravité, sur un ton qui te convainc qu'elles compatissent, sont désolées de ne pouvoir te venir en aide. Tu es sensible à ce que tous, ils aient compris d'instinct que tu es en danger, qu'ils ont à prendre certaines précautions, te témoigner ces égards qu'on a pour un grand malade. Ce qui te touche le plus, c'est que le père, lui-même, fasse des efforts, se montre moins désagréable, veille à te ménager, ne pas te heurter, ne plus t'imposer sa brutale autorité. De ce jour qui a fracturé ta vie, tu aurais voulu ne rien laisser paraître sur ton visage, ne rien laisser voir de ce qui en permanence te rongeait. Mais tu n'y es point parvenu et tu t'en fais le reproche. Le chien lui-même ne se conduit plus avec toi comme avant. Tu continues à t'occuper de lui, à lui donner à manger, à le caresser, mais le matin, quand tu arrives dans la cuisine, il ne te fait plus fête. Avec lenteur, il vient te lécher les mains, puis, immobile, lève vers toi un regard suppliant. Tout indique pourtant qu'il n'est pas malade. Mais il semble que lui aussi, curieusement, soit atteint par cette souffrance qui t'accable. Le supplice de ces soirées qui n'en finissent pas. Ce poids du silence, où ne s'entend que le tic-tac de l'horloge scandant les secondes d'un temps qui ne s'écoule plus. Chacun clos en soi-même. Le père, resté à table, tête basse, ses deux mains entourant son verre, le regard invisible dans l'ombre de sa casquette. Et vous, les cinq femmes, rituellement assise en arc de cercle autour de la cheminée, de temps à autre, l'une de vous se lève pour poser une bûche sur les braises. Le lourd silence qui se réinstalle. Chacun clos en soi-même, enfoncé dans sa nuit, travaillé par des désirs et des frustrations sur lesquels il ne saurait mettre un nom et qu'il lui faut ignorer. Ce soir-là, tu es plus douloureuse, plus perdue que les autres soirs. Pour la troisième fois, le chien qui paraissait dormir à l'angle de la cheminée vient vers toi. Il gémit faiblement, puis lève la patte et la meut avec lenteur, comme s'il voulait, mais ne pouvait pas la poser sur ta cuisse. Quand tu vois ses paupières tombantes, ce regard embué de tristesse et quasi humain, tu ne peux t'empêcher d'être bouleversé et tu te précipites dans la grange pour ne pas éclater en sanglots. Deux lentes, deux interminables années, une longue suite de jours uniformes où chaque matin tu redoutais la journée qui commençait, où chaque soir tu appréhendais la nuit qui te verrait si souvent les yeux ouverts dans le noir, livré à une souffrance que tu ne parviens toujours pas à surmonter. Toutefois, deux événements heureux ont éclairé pour quelques heures cette grisaille dont tu n'espères plus qu'elle puisse un jour prendre fin. Le mariage de Rolande et celui d'une jeune fille que tous les quatre considéraient comme une amie. Les deux fois, tu as eu pour cavalier Antoine, un garçon d'un village proche connu de toute la combe du Val, car il est seul à posséder une moto. En ce dimanche du début de printemps, tu te chauffes au soleil assise sur une pierre. La neige est en train de fondre et de partout l'eau ruisselle et gargouille. Par un chéneau crevé, elle tombe du toit de la grange et, répandue dans la cour, renvoie une lumière aveuglante. Après cette blancheur qui a régné pendant des mois, tout ce qui se découvre paraît sombre et triste. Mais tu offres ton visage à ces premiers rayons et tu ressens un picotement de joie à te dire que l'hiver s'achève, que le printemps est enfin là. Alors qu'il passait sur sa moto, Antoine t'aperçoit. Un instant plus tard, il te rejoint et propose de te tenir compagnie. Tu as plaisir à le revoir. Mais il a du mal à surmonter sa timidité et c'est à toi d'alimenter la conversation. À 4 ou 5 reprises, 7 ans, il est venu à la ferme. Chaque fois, le père l'a fraîchement reçu. Mais il ne s'est pas laissé rebuter. Tu n'as plus aucun doute maintenant sur les raisons qui l'ont poussé à te rendre visite. Le soleil se cache et tu veux rentrer. Antoine se renfrogne et tu le sens malheureux de n'avoir pu aborder ce que sans doute il brûlait de te demander. En lui tendant la main, tu cèdes à un mouvement de compassion et toute surprise, tu t'entends lui dire peut très bien répondre par oui à une question qui n'a pas été posée. Tu soutiens son regard qui t'interroge. Il hésite, semble ne pas savoir s'il a bien saisi le sens des mots que tu as prononcés. Tes hochements de tête le convainquent qu'il t'a bien comprise. Alors il grimace un sourire et avant de s'éloigner te serre le bras de ses mains noires de cambouis. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Charles-Juliette, Lambeau, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.